Adjutor Rivard Sprott. Les hommes de loi soutiennent que la preuve des circonstances qui ont accompagné la commission d'un crime peut, dans certaines conditions, établir la culpabilité de l'accusé aussi sûrement que la preuve directe du fait qui lui est imputé. Il faut cependant prendre garde que, si la conclusion n'est pas inéluctable, les circonstances incriminantes peuvent laisser subsister plus d'un doute. Preuve, l'histoire de Sprott. Un jour, dans une paroisse de la région du lac Saint-Jean, était arrivé un individu si piteux d'apparence, mal vêtu, ne possédant pour tout bien qu'un fusil, une hache, un vieux cheval et un traîneau à bâton. Il disait se nommer Sprott. D'où était-il? Quelle aventure l'amenait là? Qui venait-il faire? De quelle race était-il? On ne savait rien de lui, sinon qu'il s'appelait Sprott sans prénom et qu'il parlait fort mal le français. Au reste, il ne tarda pas à se faire connaître comme un paresseux, un fainéant et un esprit borné, un sans génie. Sprott s'était installé dans une cabane de chétive sur un terrain vacant. Il y gagnait sa maigre pitance à faire pour les voisins menus travaux faciles. Il avait passé là près d'un an quand, un certain jour d'automne, il annonça qu'il allait décamper. De village en village, il ferait le tour du lac, irait jusqu'à la forêt, et là, s'établirait sur un lot de colonisation. Un projet purement insensé. Comment cet étranger, inconnu, dénué de tout, pouvait-il espérer l'octroi d'un lot de colonisation, d'un lot de terre, non? Et quelle sorte de colon ferait-il? Bon, les gens ne s'en préoccupèrent pas trop, heureux de le voir quitter la paroisse. Ils se cotisèrent même pour lui fournir quelques provisions de voyage. Or, il y avait aussi, en ce temps-là, un garçon de 10 à 15 ans, orphelin de père et de mère, à qui on ne connaissait ni parents ni amis, et que les habitants recueillaient chacun son tour par charité. Il avait nom Benoît Tremblay. Poussé par je ne sais quel sentiment, se proposa d'emmener avec lui le jeune Tremblay. Il arriva donc un matin du mois de novembre que Sprott partit sur les premières neiges avec son cheval, son traîneau et le jeune garçon. Le vieux cheval n'allait qu'au pas et le voyage fut long. Ici et là, dans les villages, sur la grande route, Sprott s'arrêtait pour passer une nuit chez un habitant. Et à chacun de ses arrêts, ainsi qu'il fut plus tard rapporté par les témoins, Sprott grondait son compagnon, le rabrouait, le menaçait même. Oh, je suis bien bon, disait-il, de t'emmener avec moi. J'aurais dû te laisser là-bas. Tu ne sais rien faire. T'es bon à rien. Mais attends. Je trouverais bien attendement débarrasser de toi. Et si je peux trouver un trou quelque part, je t'y laisserai crever de faim et de misère. » Les bonnes gens reprochaient à Sprott de parler ainsi à un enfant. « Ah, c'est pour lui apprendre à vivre, » répondait-il. Et ce fut ainsi pendant tout le voyage. À chaque occasion, Sprott pestait, maugréait, faisait comprendre que le jeune garçon n'avait plus longtemps à vivre et que bientôt il disparaîtrait. À la dernière habitation où ils firent halte, il se montra encore plus rude. « Fais ta prière ce soir, c'est la dernière que tu fais. Demain matin, on prend sous le bois. Il ne reviendra pas, je te laisserai là voir les loups te mangeront les os. Allez, je serai enfin débarrassé. » Toute la nuit, l'enfant pleura silencieusement. Le lendemain matin, au petit jour, Sprott, suivi du petit Tremblay, s'enfonça dans la forêt prochaine. Vers midi, on entendit un coup de feu au loin, dans le bois. Mais personne, dans le temps, n'y prêta attention. À la tombée de la nuit, Sprott revint à la maison seul. « Où est votre petit garçon ?»« Dans les bois, » répondit Sprott. « Il est resté là. » Il y avait du sang sur le fer de sa hache. « Oh, j'ai tué un lièvre !» répliqua-t-il. Et quelqu'un lui dit, « Vous avez tiré au fusil, j'ai entendu le coup. » Sprott répondit, « Oui, j'avais cru voir un gibier, je manquais. » Écoutez, l'ami, ce n'est pas comme ça que les choses se passent ici. Où est votre petit garçon ?»« Je vous l'ai dit, dans les bois, il va revenir. » »« Nous verrons bien, ce soir il est tard. S'il n'est pas de retour, avant minuit, demain matin, vous viendrez avec nous. Vous nous montrerez où vous l'avez laissé. » Le lendemain, la neige était tombée. Toutes les traces de pas étaient effacées. Ils ne trouvèrent rien, pas même les restes du lièvre que Sprott prétendait avoir tué. Près d'un ruisseau, ils ramassèrent un vieux veston troué d'une déchirure qu'une balle peut-être avait pu faire. Les recherches furent poursuivies longtemps, une partie de l'hiver. Elles reprirent à la fonte des neiges. Tous les bois environnants furent battus. Aucun vestige ne fut découvert. Alors Sprott fut arrêté, accusé du meurtre de Benoît Tremblay. Les circonstances incriminaient Sprott. Sa conduite à l'égard du jeune garçon, ses menaces de mort, le sang sur la hache, le coup de feu entendu, le veston troué, et à cela s'ajoutait l'indifférence de Sprott, le défaut d'expliquer la disparition de son compagnon, des hésitations à répondre et quelques contradictions. De l'avis du plus grand nombre, Sprott était coupable. Mais la preuve du crime... À la preuve du crime, il manquait un élément essentiel. La mort de Benoît Tremblay n'était point prouvée. On n'avait trouvé dans la forêt ni cadavre, ni squelette, ni ossements humains. L'avocat de Sprott n'eut donc aucune peine, non plus qu'aucune mérite, à faire libérer son client. Il obtint un verdict de ignoramus. Sprott fut relâché. Personne ne paraît depuis alors avoir entendu parler de lui. 10 ans plus tard, celui qui avait été l'avocat de Sprott était dans son bureau quand se présenta un homme qu'il n'avait jamais vu, grand, svelte, chevelure longue, teint bronzé. « N'est-ce pas vous, maître ?» demanda l'inconnu, « qui avait défendu Sprott, accusé d'avoir tué Benoît Tremblay dans le bois de Saint-Jean. Oui, j'étais son avocat, en effet. Eh bien, je suis Benoît Tremblay. » Et Benoît Tremblay raconta. Pauvre, misérable et sans protecteur, faible et chétif, j'avais peur de Sprott. Je le suivais en tremblant. N'osant lui résister. Ah, je vois bien aujourd'hui qu'il n'était pas méchant. C'était un pauvre fou. Ces menaces ne voulaient rien dire. Mais quand je me trouvais seul avec lui, en plein bois, l'épouvante me prit et je me sauvais. Il avait alors couru de toutes ses forces à travers des arbres. S'était caché toute la nuit dans les broussailles. Il avait couru encore, rendu épuisé. Il avait fait la connaissance, la rencontre d'une bande de montagnais qui allaient chasser dans le nord. Il était resté avec eux, et pendant près de 10 ans, il avait vécu en leur compagnie, les suivant dans leur course jusqu'au Labrador, devenu comme un membre de la tribu. Enfin, un missionnaire l'avait trouvé et ramené parmi les civilisés. Voilà comment la circonstance qui eut conduit Sprott à l'échafaud n'avait pas été prouvée ni appliquée. Heureusement pour lui, les autres circonstances avaient provoqué un soupçon, mais la preuve manquait. Il n'y avait pas de victime. Les gens de loi aiment à parler latin. Alors ils lui dirent que le corpus delicti faisait défaut, ce qui était bien vrai, puisque jeune Tremblay était vivant.